Radio Kapi.
La zone de Karunga dans le sud Kivu, contrôlée actuellement par les FARDC, c'est après deux jours de violents combats contre la milice Tugwaneo et alliés dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira. Bilan de ces affrontements, 12 miliciens et 2 soldats FARDC tués et des blessés de part et d'autre, rapportent les autorités militaires sur place. Deux hauts responsables de l'ex-Sonatra, placés sous mandat d'arrêt provisoire et détenus à la prison de Makala à Kinshasa, Emmanuel Mbo, président du conseil d'administration, et Jean Masumbuko, directeur général, ont été arrêtés jeudi sur ordre du procureur général de Kinshasa Gombe, accusés de tentative de détournement des deniers publics, faux et usage de faux. Et puis, l'invité Alain Bagoula-Darel, coordonnateur de la conférence régionale des anciens boursiers du département d'État américain en RDC, y revient sur les retombées de la première rencontre de ce programme piloté par l'ambassade des États-Unis. C'était du 2 au 4 février à Goma. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du sud Kivu. Les FARDC disent contrôler la zone de Karunga dans le groupement de Bijombo. Cela, deux jours après des violents combats qui les ont opposés depuis mercredi aux combattants du groupe Tugwaneo et alliés dans les hauts plateaux du territoire de Uvira. Ces derniers se sont retirés vers la colline de Koet, dans la même région où ils sont poursuivis par l'armée régulière. D'après le porte-parole de la 12e brigade de réaction rapide déployée sur l'axe haut plateau de Minembwe, le bilan de ces affrontements font état de 12 miliciens et 2 soldats FARDC tués et des blessés de part et d'autre. Le récit de Fiston Ngoma Mayabala.
D'après le porte-parole de l'armée dans le haut plateau de Minembwe, les combattants Tugwaneo et alliés burundais ont attaqué tôt mercredi matin vers 6h les positions des FARDC au village de Karunga avant d'être repoussés. La situation reste sous contrôle et nous avons l'ascendance sur l'ennemi, a déclaré le lieutenant Meyagbe Jérémy. Les raisons de cette attaque par surprise ne sont pas encore révélées. Des sources indépendantes concordantes dans la région font état d'un nombre incalculable de soldats de FARDC tués sur le champ d'honneur et d'autres environ 7 gravement blessés et admis au centre de santé de Bijombo pour des soins médicaux. Le commandant de la 12e brigade de FARDC à Minembwe, le général de brigade Opiambondami Patrick, relayé par son porte-parole, parle plutôt des 2 soldats de FARDC tombés sur le champ d'honneur. La même source affirme que les assaillants identifiés comme combattants du groupe Tugwaneo et leurs alliés burundais se sont retirés vers la colline appelée communément Koweït. Concernant la situation des populations civiles dans la zone, les responsables de l'ONG locale AJDC, Moïse Ribarkare, signalent que Koweït, située à 15 km au sud de Bijombo, était déjà vidée de ses habitants depuis le mois d'octobre dernier. Cette nouvelle attaque inquiète par contre les déplacés se trouvant au camp de Bijombo et les environs. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Province du Tanganyika, 72 heures hier après l'incursion de la milice Toa du groupe Mai Mai à Panapale, incursion qui a fait 5 morts et 9 blessés dans la localité de Butondo. Nous savons un peu plus sur la situation qui prévaut dans la zone. Butondo est situé à 95 km au nord de Nyunzu, le récit de François-Xavier Mibé.
Sur 27 personnes prises en otage, 26 viennent d'être libérées au lendemain de l'attaque. Manque à l'appel, le chef du village de Butondo, supposé tué, rapporte les otages. Butondo est une zone difficile d'accès, une position géographique qui le rend difficile aussi de dresser les bilans exacts sur l'incursion qu'il a subie. Mais toutefois, la nouvelle société civile locale fait observer que la population du village voisin de Mulungui est en débandade depuis l'attaque attribuée à la milice Toa sur Butondo. Le chef du village de Mulungui a quitté la zone avec sa famille, indique la même source. Kalemi, François Djabimbe, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, les troupes combattantes de la garde républicaine vont organiser une marche dite d'endurance ce samedi 12 février à travers les artères de la ville de Kinshasa, selon la dépêche de la cellule de communication de la présidence de la République. Cette marche vise à renforcer la condition physique de ces militaires et ne devrait pas, je cite, « donner lieu à des spéculations ni perturber la journée de travail de la population », estime la même source. Le communiqué précise qu'il s'agit de près de 5 000 hommes appartenant à cette unité d'élite des FARDC FARDC, chargés de la protection du chef de l'État et des institutions du pays. Ils seront équipés de leur matériel de combat et vont se déployer à travers les grandes artères de la capitale à partir de 5h du matin ce samedi, suivant les itinéraires retenus par l'état-major garde républicaine. Le premier lieu de rassemblement est prévu à l'échangeur de Limété, d'où partiront deux groupes. Le premier devra emprunter le boulevard Lumumba jusqu'au Kanseta, près de l'aéroport international de Ndjili. Le deuxième groupe devra se diriger vers la gare centrale à Gombe en traversant Limété, le boulevard Triomphal, l'avenue de Libération et le boulevard du 30 juin. Quant au troisième groupe, il devra partir de la gare centrale jusqu'au camp Tchatchi, dans la commune de Ngaliema, en passant par Bandalungwa et Kintambo Magasin. Je vous le disais en titre, Emmanuel Mbo et Jean Masumbuko, respectivement président du conseil d'administration PCA et directeur général de la Société commerciale des transports et ports SCTP ex-ONATRA, sont désormais placés sous mandat d'arrêt provisoire et détenus à la prison de Makala à Kinshasa, information contenue dans un tweet de vendredi du président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado. Selon Georges Kapiamba, les deux hauts responsables de l'ex-ONATRA ont été arrêtés depuis jeudi 10 février sur ordre du procureur général de Kinshasa Gombe pour tentative de détournement des deniers publics, faux et usage de faux. Cette action judiciaire fait suite à la demande de l'inspection générale des finances IGF qui dénonçait la surfacturation dans le dossier IMD-SCTP. L'affaire concerne le contrat de réhabilitation de deux quais du port de Matadi qui est passé de 2 millions à 8 millions de dollars. De son côté, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, affirme sur son compte Twitter, je cite, « Les complices des mandataires de la SCTP dans la surfacturation de 5 millions de dollars du dossier IMD sont dans des cabinets ministériels. C'est une prédation en bande organisée. » Fin de citation. Entre-temps, à Goma, le député national Josué Mufula a été relaxé hier par la Cour militaire du Nord Kivu. Cette juridiction s'est déclarée incompétente au regard des articles 19 et 61 de la Constitution, tels que soutenus par le Conseil du député lors de l'instruction de cette affaire. Explication avec Gabriel Wamenya.
C'est en début de cet après-midi que le député national Josué Mufula a recouvré la liberté. Les mobiles de sa relaxe, alors que l'affaire a été prise en délibéré par la Cour militaire du Nord Kivu, ne sont pas encore connus. L'auditeur supérieur du Nord Kivu que nous avons contacté pour en savoir plus sur les raisons de la relaxe de l'inculpé Josué Mufula n'a pas donné aucune explication quant à ce, alors que c'est le même officier qui a soutenu devant la Cour pendant la première audience d'hier mardi que l'effet reproché au député Mufula était extrêmement grave. Ce sont notamment les infractions de provocation et incitation de la population à la désobéissance. Josué Mufula avait également été inculpé par le parquet pour l'infraction d'outrage aux forces de l'ordre et de défense. Certes, les avocats du prévenu ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité du présent procès devant cette juridiction militaire, se fondant sur les articles 19 et 61 de la Constitution. Ces débats autour de ces articles ont mis en exergue l'incompétence de la Cour militaire à juger un député national jusque-là couvert par les immunités et privilèges parlementaires. Goma, Gabriel Wameya, Radio Okapi.
Province du Maniema, le cadre de concertation de la société civile Force Vive de Punia a organisé hier à Punia même une marche pacifique demandant le départ sans condition du premier substitut du procureur près le tribunal de paix de Punia. Le premier vice-président de cette juridiction fait savoir que la population reproche trois choses au premier substitut du procureur, dont le non-respect des droits humains et les arrestations arbitraires. Jean-Claude Ngoy, premier vice-président de la société civile de Punia, explique au micro de Florence Kizalunga.
La première, le chef du parquet de Punia, il exagère avec les arrestations arbitraires de la population de Punia, les tracasseries en outrance, puisqu'il demande même un cultivateur qui est arrêté, il demande plus de 500 000 à 1 million de francs congolais. Il ne regarde même pas la condition que ce détenu il est là. Troisièmement, il ne respecte pas les droits humains. Même si quelqu'un il est arrêté ou soit peut être coupable, mais lui, il a arrête et il fait du n'importe quoi. Et c'est pourquoi nous déclarons que le chef du parquet qu'il puisse quitter à Pugna. Puisqu'il y a de cela plus de 5 ans depuis qu'il est à Pugna, on lui a passé plusieurs fois. Aller le voir, discuter avec lui, lui montrer que non, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon auprès de la population de Pugna. C'est pourquoi la population de Pugna est debout aujourd'hui sur la route avec les calicots pour déclarer son départ sans délai ni condition. Maintenant, on demande même aux autorités provinciales de s'impliquer puisque la justice n'est pas équitable à Pugna. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde fait du n'importe quoi, tout le monde fait ce qui lui vient dans sa tête.
Contacter l'incriminé s'est réservé de tout commentaire car selon lui, l'instruction du dossier est en cours. Et puis ce cri de détresse hier des passagers de la compagnie aérienne Congo Airways en partance pour Kananga, leur vol a été annulé à la dernière minute le soir alors qu'ils étaient à l'aéroport de Ndjili depuis 5h30 du matin. Ils dénoncent cette situation et le manque de communication de Congo Airways sur la disponibilité du prochain vol. Ces passagers réclament réparation pour le préjudice causé car parmi eux figurent des enfants, des malades, des femmes et des travailleurs, bien que la compagnie leur a remis à chacun 10 dollars pour payer le transport. Écoutons l'un d'eux, joint hier soir depuis l'aéroport international de Ndjili par Pierrot et la Meji.
Nous avons acheté le billet et nous a été dit d'être à l'aéroport à 5h30 et que le vol devait décoller à 9h au plus tard 10h. C'est à peine arrivé à l'aéroport, il y a un message qui arrive, non, le check-in commence à 8h. On est là, on a fait le check-in effectivement à 8h et on nous a mis dans la salle d'attente. On est dans la salle d'attente, on nous envoie encore un message, non, le vol sera à 11h. 11h15 comme ils ont dit, on arrive, non, ils communiquent, ça sera 12h. Non, c'est à 14h20, nous avons un problème opérationnel. À 14h20, vous allez partir. Et à 14h30, on est là jusqu'à 16h. C'est maintenant 17h qu'on nous envoie des messages dans le téléphone pour dire que le vol a été annulé, sans nous préciser à quand le prochain vol. Et ils nous demandent de rentrer comme ça. C'est depuis le matin, pas même un verre d'eau. Ils nous ont dit à 13h, on va venir vous servir là avec un pain, avec du jus. C'est qu'on n'a pas reçu. Même les chèvres, on leur donne quand même de l'eau. Et il y a des gens qui prennent des médicaments.
Covid-19 en RDC, la Direction générale des migrations DGM a rendu public hier des nouvelles directives d'entrée en République démocratique du Congo dans une note circulaire adressée aux directeurs provinciaux de la DGM, aux chefs des postes frontaliers ainsi qu'aux responsables des compagnies aériennes. La DGM rappelle que tout voyageur à l'entrée ou à la sortie du territoire national doit présenter obligatoirement une preuve de vaccination anti-Covid et d'un test PCR négatif réalisé dans le pays de provenance, cela 48 heures ou plus tard. Notez l'obligation de se soumettre au test PCR réalisé par les services agréés à l'arrivée en RDC, ainsi que l'interdiction d'embarquer les voyageurs en provenance ou ayant transité par l'Inde et le Brésil. Dans l'actualité aussi, l'inhumation hier après-midi au cimetière de Mingadi 2 sur la route Kinshasa-Matadi de 25 corps des victimes du drame survenu la semaine dernière à Matadi-Kibala, ici à Kinshasa. Peu avant l'inhumation, les corps étaient exposés au stade Vélodrome dans la commune de Kintambo où un hommage leur a été rendu en présence du Premier ministre, du gouverneur de la ville de Kinshasa et d'autres membres du gouvernement. C'est un reportage de Jean-Francis Mouya.
Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Gentil Ngobilambaka, a exprimé sa compassion aux familles et a souligné que le gouvernement ne transigera plus sur le non-respect des normes urbanistiques.
Ce cauchemar qui est un accident, une situation imprévisible, nous rappelle que la vie est à la fois précieuse et fragile. L'exécutif provincial ne transigera plus jamais sur le non-respect des normes urbanistiques, notamment l'occupation des emprises routières, ferroviaires, aéroportières.
La Confédération syndicale du Congo, quant à elle, déclare par la voix de sa secrétaire générale que les milieux du travail doivent être sécurisés et la dignité humaine honorée.
Les milieux du travail doivent être sécurisés et exemptés de tout danger. Il est temps qu'on puisse honorer la personne et que la dignité humaine soit honorée.
La population venue compatir avec les familles et pleurer a saisi cette occasion pour inviter les compatriotes commerçants à adopter un comportement responsable en évitant d'exposer leur vie au danger.
Beaucoup de gens disent que place à côté qu'ils ont été toujours c'est la caca à l'État. Mais quand vous partez seul, vous ne partez pas avec l'État. Pensez à vos familles, à vos maris, il est temps de se mettre en sécurité.
Notons que le corps des illustres disparus seront enterrés au cimetière de Mingadi 2 dans la province du Congo central.
Actualité Afrique Monde.
L'Union européenne affirme son optimisme sur un apaisement prochain de la situation en Éthiopie, selon Annette Weber, représentante spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique. Le Parlement éthiopien pourrait lever prochainement l'état d'urgence instauré dans le pays depuis novembre dernier. J'ai parlé au médiateur de l'Union africaine ainsi qu'à l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui est en tournée en Éthiopie. Il est prudemment optimiste. Il dit que toutes les parties comprennent que la prochaine étape doit être la paix, qu'elles doivent demander la fin des hostilités et qu'elles doivent s'efforcer d'obtenir un cessez-le-feu, a déclaré Annette Weber.
L'invité.
Il s'agit du coordonnateur de la conférence régionale des anciens boursiers du département d'État américain en RDC. Alain Bagoula Darel revient sur les retombées de la première rencontre de ce programme qui est piloté par l'ambassade des États-Unis en RDC. La rencontre sur la paix dans la sous-région, tenue du 2 au 4 février à Goma, avait réuni une trentaine d'anciens boursiers du département d'État américain venus du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda et de la RDC. Mais quel serait l'impact de cette conférence régionale sur la paix? Réponse dans cet entretien que Alain Bagoula Darel a accordé à Mathieu Ilunga Chamboui.
Monsieur Alain Bagoula Darel, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Pouvez-nous dire la quintessence de ce programme ou conférence que vous tenez au jour d'aujourd'hui?
Merci beaucoup. Nous avons une conférence qui s'était ici à Goma, qui a commencé et nous sommes focalisés sur les anciens boursiers du département d'État des États-Unis. Ils ont participé à plusieurs programmes d'échange financés par le département d'État du gouvernement américain. C'est ainsi nous sommes là représentés par quatre pays de la région du Grand Lac, dont l'Ouganda, le Congo, le Rwanda et le Burundi. Et nous sommes en train de traiter la question de la place ou le rôle des anciens boursiers des différents programmes des départements d'État des États-Unis par rapport à la question du genre. Nous traitons surtout les questions de l'émancipation de la femme et aussi la question de violence basée sur les genres. Ces programmes étaient lancés en période de ces jours d'activisme pour beaucoup plus se focaliser à l'éradication de tout ce qui est mitigation dans la communauté et discrimination faite aux femmes et beaucoup plus la question du violence. D'aucuns ignorent que pendant plus de 20 ans, la région du Grand Lac a été touchée par des viols, a été touchée par des massacres et ce sont les femmes qui sont victimes. Et nous, nous nous sommes retrouvés à nombre pas signifiant mais réduit. On a choisi, on a lancé des appels et beaucoup de ces alumni ou anciens boursiers ont postulé et nous avons sélectionné une quantité réduite pour traiter la question et puis tous ceux qui ont été là pour représenter les différents pays vont en fait prêcher cette nouvelle.
Monsieur Darel, vous parlez d'abord des boursiers dont vous avez fait appel. Est-ce que vous pouvez nous donner les statistiques de ceux qui ont déjà bénéficié des bourses et pourquoi vous faites encore appel à eux dans cette conférence?
Nous avons fait appel à ces anciens boursiers parce que beaucoup d'entre eux, ou la majorité, ils sont porteurs d'idées et beaucoup sont à la tête même des organisations qui sont activistes des droits de l'homme. La plupart, ils font impact dans leur communauté. Alors, la statistique, je ne saurais pas dire tous les nombres exacts, mais nombreux ont été dans ces programmes d'échange et nous avons sélectionné juste une partie pour traiter de cette question et on espère que chacun va rentrer dans sa communauté et il va beaucoup plus sensibiliser sa communauté à éradiquer les violences faites aux femmes et l'impact sera visible parce que nous croyons à ces jeunes boursiers. Le département d'État ne choisit pas juste au hasard mais choisit les gens, des leaders qui impactent leur communauté et qui ont un travail remarquable dans leur communauté, surtout sur la question des droits de l'homme.
Alors, vous avez traité aussi sur l'éradication de violences faites aux femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, déjà, parmi les anciens boursiers qui sont leaders dans leur communauté, il y a des actions louables que l'ambassade qui soutient cette activité a remarqué. Il a trouvé nécessaire d'accompagner les jeunes au travers une table ronde où ces jeunes se rencontrent des différents pays de la région des Grands Lacs et discutent sur la question et chacun juste se rappeler à leur conscience qu'ils puissent amplifier les actions qu'ils font dans la communauté. Et pour l'ambassade et nous, nous avons seulement le plus grand objectif de rassembler ces jeunes et les amener à travailler ensemble. C'est pourquoi nous, nous avons visé ces moments qui en nous référant du thème international sur les violences faites aux femmes en période de ces jours d'activisme qui a été reporté à ce moment parce que c'est un moment très fort pendant la pandémie de coronavirus où les viols ont été remarqués. Il y a eu aussi des cas de viols. C'est pourquoi nous attaquons pendant qu'il est encore temps et nous espérons dans l'avenir proche qu'il y aura des solutions.
Qu'est-ce que ça peut changer?
Ça peut changer dans la communauté, il y aura un changement parce que s'il n'y a pas de viol, si la femme est considérée dans sa communauté, si la femme trouve la place, même dans la prise de décision, il y aura un changement et ça va faire que le monde soit meilleur, qu'il y ait égalité de chance, égalité de genre et voilà.
Alain Bagoua Darel, je vous dis merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Le coordonnateur de la conférence régionale des anciens boursiers du département d'État américain en RDC s'entretenait avec Mathieu Ilunga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.